Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, quand nous avons accepté de vous présenter ce thème, l'amour conjugal, avec Elisabeth, nous sommes posé la question: qu'est-ce qui caractérise l'amour conjugal entre deux chrétiens? Et d'ailleurs, nous avons posé la question. Et voici les mots que vous nous avez envoyés. Alors je lirai simplement le top 10. Confiance, intimité, sexualité, respect, joie, partage, engagement, soutien. Mais aussi, pardon, conflit. Ça nous connaît, ça aussi. Alors merci aux personnes qui nous ont envoyé tous ces mots. Nous avons même reçu un poème, donc merci au poète qui est ici présent. Vous allez retrouver la plupart de ces mots en tête de nos diapositives. Ce sont toutes les thématiques que nous allons développer à fond. Nous avons donc prévu un prêche de 7 heures, 7 étant le chiffre parfait. Alors un mot d'introduction. À l'époque des apôtres, entre la conception du mariage chrétien telle que décrit par l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre et la conception du mariage des gréco-romains, il y avait un immense fossé. La conception du mariage chrétien a été révolutionnaire à l'époque du Nouveau Testament. Il n'y avait malheureusement pas de vraie relation entre le mari et la femme. Le mariage s'inscrivait dans une vision plutôt politique, pour l'intérêt du nom de la famille. Le taux de divorce était très très élevé. Il y avait une totale dissymétrie entre ce qui était attendu de la part des hommes et ce qui était attendu de la part des femmes. Une femme était sous l'autorité absolue de son mari. En quelque sorte, c'est ce qui est écrit, j'ose le dire, elle faisait partie de son mobilier. Elle n'avait aucune capacité légale, ce qui pratiquement faisait d'elle une esclave. C'est honteux. En fait, la vie familiale était régie par les codes dits codes domestiques, comme un tableau des devoirs de chaque membre de la maisonnée. Le mariage chrétien va donc à l'encontre de la vision gréco-romaine, mais va aussi à l'encontre de la vision juive de l'époque de Jésus. Car le mariage chrétien invite les époux à aimer leur femme, en prendre soin, et à les aimer d'un amour sacrificiel, c'est-à-dire en faisant passer leurs besoins avant les siens propres. Pour le mariage chrétien, il y a donc des paradoxes. Il y a amour, mais aussi sacrifice. Les époux sont égaux, mais il est parlé aussi d'autorité et de soumission. Alors l'amour conjugal. Si on regardait premièrement la loi française, on connaît bien l'article 212 et puis aussi les suivants, article lu lors de la cérémonie de mariage à la mairie, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Il s'engage aussi à une communauté de vie. Quel beau programme que la loi française! On peut être reconnaissant qu'il y ait ces articles. Mais vous avez remarqué que dans la loi française, l'amour n'est pas mentionné. La Bible, elle, parle d'amour entre époux. Elle parle d'amour à une époque où les mariages étaient arrangés, à une époque tellement triste pour les femmes, à une époque où le nuage de mots aurait été sans doute très, très, très différent de celui-là. Alors nous allons vous présenter un diaporama de l'amour conjugal, bien sûr avec l'aide de nombreux textes bibliques. Pour nous deux, ce fut un challenge de préparer ce diaporama. Nous ne voulons pas nous présenter comme modèle. Nous sommes défaillants, comme chacun. Nous commencerons par le livre de la Genèse, où nous trouvons ce célèbre trépied fondateur du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils seront une seule chair. En Matthieu 19, Jésus rappelle aux pharisiens que c'est Dieu lui-même qui a dit cette parole, qui est d'ailleurs répétée 4 fois dans le Nouveau Testament. Alors deux de ces 3 verbes, quitter, s'attacher, devenir un, s'écrivent l'amour conjugal. Mais le premier verbe, quitter, semble être une condition préalable à l'épanouissement de cet amour. Alors notons qu'il y a aussi un consentement présumé à chaque étape. Alors quitter un acte public d'émancipation, une prise de responsabilité, une union qui commence par une rupture, d'avec les solidarités antérieures. S'attacher, c'est un attachement libre, un engagement de fidélité, une alliance de compagnonnage. Le devenir un, c'est la sexualité, l'intimité sexuelle, mais aussi un projet commun de vie. Alors dès l'origine, Dieu propose au couple de s'attacher l'un à l'autre par une alliance, on en met une là d'ailleurs, qui implique des engagements et les mêmes droits.
Alors après la Genèse, nous avons cherché les textes du Nouveau Testament qui parlent d'aimer son conjoint. Alors les voici. Marie, aimez vos femmes comme Christ. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Marie, traitez vos femmes avec respect, honneur. Et il est dit d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Il y a donc une quasi-prescription d'aimer et à respecter qui lui semble lié. Avec ce conseil aux femmes âgées, donc ça me concerne, d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Surprenant, n'est-ce pas, pour un sentiment soi-disant si naturel. Alors, nous voulons aussi, bien sûr, souligner dès le début de ce message ce qui fait le mystère du mariage entre 2 chrétiens, cette analogie extraordinaire entre 2 couples, le mari et la femme sur terre, et Christ et l'Église, avec ce « comme Christ, comme Christ ». L'amour de Christ, l'amour de Dieu, c'est une caractéristique de Dieu, l'amour. C'est son essence même. Et même Paul, à qui Dieu a révélé tant de choses, dit que c'est un mystère. Nous allons aussi essayer d'y puiser quelques enseignements pratiques pour notre réalité de couple sur terre. Alors d'abord, l'amour, c'est un sentiment. La définition, dans les dictionnaires, un sentiment vif qui pousse à vouloir du bien à quelqu'un, à l'aider en s'identifiant plus ou moins à lui. On parle de dévotion, d'inclination, de caractère passionnel ou sexuel, de caractère romantique ou désintéressé. Bref, pour ce qui est de l'amour conjugal, ça peut commencer par une attirance, ça peut commencer par un coup de foudre, un sentiment passionnant, passionnel, qui entraîne une euphorie, un désir de fusion, un désir de se connaître et de s'attacher. On s'est rencontrés chez des amis, dans des rencontres de jeunes, à l'église, au travail ou sur un site de rencontre chrétien, ce qui est plus fréquent aujourd'hui, enfin, qui est de plus en plus fréquent aujourd'hui. Et voilà, cette attirance est née. Alors, on a regardé un petit peu qu'est-ce qui avait pu être présenté comme ça dans la Bible. Et j'ai pensé à Adam et Ève. Quand Dieu qui a créé Ève, il dormait, il lui amène, c'est touchant. Et là, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Ce que j'appellerais l'effet « waouh ». Après, on a aussi, dans la parole, un coup de foudre de Jacob devant Rachel. Jacob vit Rachel. Vous savez, il est au puits, là, il y a puits loin de son pays natal, et au puits du pays, près d'un puits, il rencontre un des bergers, un troupeau, et voilà, tout à coup, Rachel qui arrive. Et là, on voit que tout de suite, il flash. Et qu'est-ce qu'il fait? Il abreuve le troupeau pour Rachel. Et ensuite, il lui dit qui il est. Et carrément, il l'embrasse et fond en larmes. C'est comme ça dans le texte. On sait ensuite qu'il a travaillé 2 fois 7 ans pour pouvoir l'épouser. Alors, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est un mystère, d'ailleurs, le sage des Proverbes le dit. Une chose trop merveilleuse pour moi, dit-il. Le chemin de l'homme vers la jeune fille ou chez la jeune fille. Alors, c'est une période incroyable. Nous faisons des choses pour l'être aimé sans difficulté. Et nous avons aussi l'impression que la personne que nous aimons est parfaite. Nous minimisons ses défauts. Et cette passion, ces mécanismes d'attachement déclenchent un fort besoin de se voir, de se toucher, de se comprendre, de se connaître. Et puis, voilà, le temps passe. Aujourd'hui, avec l'espérance de vie, on peut imaginer passer 50 à 70 ans ensemble, parfois. Oula. Alors, ce sentiment passionnel et fusionnel dure en général, bien des films le décrivent, 2 ans. Parfois moins, parfois plus. D'ailleurs, il vaut mieux ainsi, parce que sinon, on ne pourrait pas se concentrer sur autre chose dans la vie.
On ne peut pas travailler.
Quoi qu'il en soit, comme dit Oscar Wilde, l'amour est aveugle, le mariage lui rend la vue. Alors, je voudrais dire aussi que parfois, le mariage a commencé sans cette période de passion. Par une décision prise ensemble, raisonnable. Et ensuite, c'est l'amour décidé qui va se développer. Ça a d'ailleurs été finalement toujours le cas jusqu'à ce que l'avènement du mariage d'amour, très récemment, c'était des mariages arrangés. Et l'amour se développait ensuite. Alors, c'est un amour qui se décide, qui demande un effort de volonté. Et nous voyons cela aussi peut-être, un mariage arrangé dans Isaac et Rebecca. Elle décide de l'épouser et quand ils se voient, eh bien, un soir, n'est-ce pas, après ce long voyage à dos de chameau, eh bien, il la voit, elle le voit et ils se rencontrent et il est dit qu'il s'attacha à elle. Alors dans cette deuxième phase de l'amour, voilà, il faut de l'énergie, il faut des soins constants, du temps, des actes, mais l'effort en vaut la peine. Parce que c'est un cercle vertueux qui s'enclenche. Plus on décide d'aimer, plus on aime. Finalement, je voudrais le dire aussi pour les jeunes, au moment de se lancer dans la grande aventure du mariage, c'est pas tant de savoir si je l'aime, c'est de savoir si je veux l'aimer pour la vie. Et ensuite, nous ferons ce qu'il faut pour que ça marche. Alors cet amour, au cours des années, eh bien c'est sûr que cet amour qui se développe, c'est un amour beaucoup plus sûr, beaucoup plus de confiance, de connaissance réciproque et de complicité. Alors, comment est-ce que cet attachement se décline? Alors, dans la parole, vous savez, il y a 2 mots grecs, alors qu'en France, on dit on aime tout, hein, on aime les hamburgers, on aime son mari, enfin bon. Il y a des bilans où il y a plus de mots, donc le grec. Dans le grec du Nouveau Testament, pour l'amour conjugal, on trouve les 2 mots, agapé et philia, mais surtout agapé. Et agapé, c'est le mot qui est toujours dit pour l'amour qui vient de Dieu. Quand Jésus parle de l'amour, quand Dieu parle de l'amour, eh bien c'est agapé, donc c'est un amour qui se sacrifie, un amour qui se donne de façon inconditionnelle. Et quand il est dit au mari d'aimer leur femme, eh bien c'est ce mot, agapé. Philia est un mot qui est plus rarement employé dans la Bible, et parle plutôt de l'amitié, c'est l'amour des frères, hein, la tendresse, la complicité, le bien-être. Hein, donc, c'est mon conjoint et mon meilleur ami. Et d'ailleurs, c'est quand il est dit aux jeunes femmes d'apprendre à aimer leur mari, c'est le mot philia. Alors, il y a d'autres mots encore, bien sûr, qui qualifient l'amour conjugal, comme eros, mais il n'est pas dans le Nouveau Testament. Alors, cette décision d'aimer va combler des besoins profonds. Le besoin d'être aimé, d'être compris, d'être en sécurité, d'être reconnu, de me sentir reconnu, c'est-à-dire accepté, comme différent de l'autre, sans avoir forcément toujours à me changer. D'être entendu dans ma vision du monde, mon ressenti, mes émotions. C'est-à-dire que mon conjoint accepte de recevoir et pas seulement d'entendre. C'est ça qui me confirme. Je me sens confirmée. Je me sens unique et à ma place. Et ainsi, je vis en liberté. C'est vrai que dans la vie conjugale, on scanne un peu en permanence. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je compte pour lui? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'apprécie? Voilà.
Oui, je t'apprécie.
Par orgueil ou fierté, nous savons fort bien cacher nos besoins affectifs. Pourtant, quel que soit notre âge, nous avons toujours ces mêmes besoins d'être aimés. Et nous avons besoin de nous focaliser donc plus sur les besoins de notre conjoint plutôt que sur nos propres désirs ou encore moins sur ses défauts. Je voudrais ajouter qu'on ne se sentira jamais complètement comblé par son conjoint. Il n'y a que Dieu qui peut combler les cœurs. On aura toujours des déceptions. Dieu seul nous aime d'un amour qui peut combler totalement notre soif d'amour. Alors pour revenir à l'amour conjugal, il y a quelque chose d'essentiel. C'est, vous voyez, ce petit sigle que j'ai mis, ça veut dire communiquer. Il paraît qu'il n'est pas clair, mon petit sigle, mais la papier arrive. Mais chaque fois que vous le verrez apparaître, ça voudra dire communiquons, communiquer. Il faut se parler. Et bien sûr, il va falloir se parler tout au long de la vie conjugale. Et à ces moments d'attachement très forts, les moments heureux, la naissance de l'amour, les fiançailles, le mariage, la lune de miel, l'arrivée d'un enfant et d'autres moments heureux, joyeux qu'il y a à vivre justement en famille où on rit bien. Et puis l'organisation, les discussions, des choix de vie, des choix de professionnels, d'église, etc., des choix de service. Et puis il y aura aussi des événements difficiles. Peut-être une maladie, un handicap, des deuils, peut-être des disputes graves, peut-être de la colère accumulée et du péché. Et tout ça, grâce au pardon aussi, va permettre de fortifier le lien et on s'attache de plus en plus l'un à l'autre dans les joies comme dans, finalement, les frustrations. C'est le moment de mettre en pratique les décisions d'attachement que nous avons prises le jour du mariage. Alors pour ça, je vous donne deux tips. Premièrement, prendre soin l'un de l'autre. C'est vraiment essentiel pour s'attacher, avoir ça en priorité. Et deuxièmement, se consacrer du temps régulièrement à deux.
Vous connaissez sans doute les 5 langages de l'amour que Gary Chapin nous a fait découvrir. Parfois, ce que nous donnons, c'est ce que nous avons le plus envie de recevoir et avec notre propre langage. Le problème, c'est que le langage d'amour de notre conjoint est peut-être différent du nôtre et on risque de passer à côté. Alors, connaissons-nous le langage d'amour de notre conjoint? Alors, nos langages d'amour changent aussi au cours de la vie. Ce qui était pour nous très important lorsque nous sommes tombés amoureux peut être différent aujourd'hui. Alors, on peut retrouver ces langages d'amour dans la Bible. Alors, bien sûr, nous trouvons les paroles valorisantes, les gestes de tendresse, les moments de qualité dans le livre du Cantique des Cantiques. Mais vous l'y lirez à tête reposée chez vous. Maintenant, un mot sur l'égalité fondamentale entre hommes et femmes. Avant d'évoquer le respect mutuel, pour ensuite arriver aux différences hommes-femmes. Nous savons que lors de la création, Dieu a créé hommes et femmes à son image, et donc égaux. En 1 Corinthiens 11, pendant les 10 premiers versets, Paul relate pourtant une dissymétrie forte entre l'homme et la femme. Mais Paul conclut au verset 11 en reprenant cette idée d'égalité, en réaffirmant ce principe d'égalité, cette fois dans le Seigneur. Toutefois, dit-il, toutefois, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur. La fin du raisonnement de Paul est capitale et il introduit par un toutefois, ou traduit par cependant. Et dans ce verset, donc, Paul insiste en disant cependant, dans le Seigneur, il y a un schéma égalitaire de réciprocité, d'interdépendance. Paul dira aussi aux Galates, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est quand même clair, il n'y a plus homme ni femme dans le Seigneur. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il y a donc une égalité de dignité dans la création, comme dans la perspective chrétienne. On admire bien sûr l'attitude de Jésus envers les femmes qu'il a côtoyées. Il les considère, les traite avec respect, dignité. Il rejette d'ailleurs la pratique de la répudiation pour n'importe quel motif, s'opposant ainsi à toute décision arbitraire et unilatérale. Et puis Jésus honore les femmes. Il a accepté leur hommage. Il leur révèle des vérités mais extraordinaires, comme à la femme samaritaine, comme à Marie au tombe après la résurrection.
Alors venons-en donc au respect entre les deux partenaires. Ah, voilà le livre du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect. Qu'est-ce que le respect ? Le dictionnaire dit sentiment qui porte à apporter à quelqu'un de la considération, en raison de la valeur qu'on lui accorde, qu'on lui reconnaît, à lui porter des égards, à le traiter avec déférence, considération, souci de ne pas porter atteinte. Alors, ça va se décliner, évidemment, en quotidien, valoriser, se laisser valoriser, apprécier, être apprécié, écouter, tenir compte, communiquer, voilà. Et aussi, surtout, peut-être, donner le droit à l'erreur, ce qui est le plus difficile, ne pas se concentrer sur les défauts. Bref, une amitié d'égal à égal. Alors, clairement, cette prescription est une consigne nette donnée aux femmes. Vous avez remarqué tout à l'heure. Que la femme respecte son mari avec un mot assez fort, phobéo, donc ça veut, qui est traduit parfois par craindre. Alors rappelons-nous, oui, que Dieu nous demande de respecter notre mari en toute occasion, ne pas le dévaloriser, ne pas le dénigrer, ni pointer toujours ses faiblesses. Avec cependant le bémol qui est donné par l'apôtre Jean, qui dit « la crainte n'est pas dans l'amour », dans 1 Jean, « mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment ». Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Toujours avec ce mot phobéo. Donc vous voyez, il y a des bémols que même la parole introduit. Mais on peut déduire dans d'autres textes que le mari lui-même est appelé à respecter sa femme, puisqu'il est dit donc ne vous aigrissez pas contre elle, donc ce serait, ça présume du respect, et traitez vos femmes avec compréhension ou respect, honneur ou estime. Voilà. Donc respecter, c'est ne pas prendre le pouvoir, ni le considérer comme un incapable. Mais l'encourager avec des remarques pleines de respect, que les remarques soient positives ou négatives, avec amour et patience.
Examinons maintenant les différences. Dieu créa les humains à son image. Hommes et femmes, il les créa. Hommes et femmes englobés dans le même acte créateur de divin. L'être humain qui est en relation à l'image du Dieu pluriel et unitaire. La principale différence que pointe le texte biblique, la principale différence est sexuelle. Mâle et femelle, littéralement, avec des termes hébreux qui sont des termes explicitement sexuels, que je n'ai pas mis ici à l'écran, mais c'est vraiment ça. Et cette distinction entre les sexes implique que l'humanité n'est pas complète sans les deux sexes. Si l'homme est, s'il n'y avait que des hommes, l'humanité ne serait pas complète. S'il n'y avait que des femmes, l'humanité ne serait pas complète. C'est ensemble que l'humanité est complète. Tant que l'homme est seul, la situation n'est d'ailleurs pas bonne, dit le verset 18 du chapitre 2. Cependant, cela ne veut pas dire que la personne humaine de chaque sexe est incomplète, car elle est considérée comme autosuffisante dans toute l'écriture, d'où d'ailleurs la valeur du don du célibat dans 1 Corinthiens 7. Le texte met l'accent sur la similarité et la communauté. L'homme et la femme sont tous les deux créés en image de Dieu, et Calvin a pu écrire que tout ce qui est dit dans la création sur l'homme appartient aussi au sexe féminin. Il faudrait parler d'égalité. Alors on note aussi que la différence est bénie par Dieu au travers du premier couple. C'est même la toute première chose que Dieu bénit sur la terre. Le texte dit que Dieu va faire à l'homme une aide, traduit aussi par un secours, qui soit son vis-à-vis. Ce premier mot, « ézer », décrit une collaboration lorsque la force d'une personne est insuffisante, traduit souvent par soutien, par secours et même salut. Il s'applique souvent à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est utilisé 21 fois et 15 fois, c'est Dieu qui est le secours de l'homme. Ce terme est utilisé pour Dieu. C'est le même terme qui décrit ce que la femme est pour l'homme, ce qu'est Dieu pour moi. Ce terme suggère un rôle d'appui de la femme qui ne doit surtout pas être dévalorisé, mais c'est une collaboration. Élisabeth n'est pas du tout ma servante. Ce terme élève au contraire très haut la place d'Élisabeth, rôle que Dieu a lui-même pour moi. Le second mot veut dire « comme en face de lui, lui correspondant, vis-à-vis », autrement dit « à sa hauteur ». Il vient d'un verbe qui veut dire « communiquer par la parole ». Oui, la parole d'un vis-à-vis est fondamentale pour que l'homme et la femme puissent se construire. Mais c'est vrai que ce vis-à-vis, c'est aussi un front à front. Il comporte peut-être une dimension de résistance, presque frontale. Mais Dieu a prévu que l'homme et la femme se construisent par ce conflit positif qui va se résoudre par la négociation. Dieu a dit, faisons les humains à notre image, l'homme, mais c'est l'être humain, selon notre ressemblance. Qu'ils dominent sur les poissons, les oiseaux, le bétail, sur la terre. Dans ce texte, hommes et femmes sont associés dans une mission d'autorité sur la création. L'homme mâle, tout seul, ne peut pas remplir à lui tout seul la mission d'autorité sur la création. C'est ensemble. Avec la désobéissance de l'homme, il se produit une profonde discordance au sein de l'humanité. L'homme et la femme ont pourtant toujours les mêmes mandats. Ils ont toujours la même vocation. Mais désormais, le travail est devenu pénible. La protection s'est transformée en domination, bien souvent. Et le plaisir en frustration. Dans les relations hommes-femmes, la domination est la conséquence du péché. Lorsque Dieu, après la chute, dit à l'homme « tu domineras sur la femme », il ne maudit pas la femme, mais il semble qu'il décrit plutôt ce qui va désormais se passer par suite de péché. Cette relation de communion homme-femme peut se transformer en un rapport de force. L'altérité est désormais vécue dans la confrontation, voire la domination. Quelle tristesse!
Alors nous avons donc vu cette perspective égalitaire, la chute, des dominations, des frustrations, des attentes insatisfaites. Alors que dit l'ère chrétienne ? Paul, tout en maintenant clairement la réciprocité, introduit tout aussi clairement une hiérarchie dans le couple. Et voilà les textes qui représentent aujourd'hui un vrai choc culturel. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Et l'apôtre Pierre le dit aussi, je ne l'ai pas remis, vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Et Paul dit aussi, le chef de tout homme, c'est le Christ, le chef de la femme, c'est l'homme, et le chef du Christ, c'est Dieu. Alors, c'est un sujet difficile. Et c'est vrai que dans le milieu chrétien évangélique, quand on parle de soumission, c'est bizarre, on pense toujours aux femmes. Et c'est un sujet, en fait, qui concerne chacun. Attention d'ailleurs, dans certaines versions de la Bible, comme la version Darby, il y a un alinéa et de nouveau le mot « soumettez-vous » est répété, ce qui n'est pas dans le texte, qui dit de façon cursive « ainsi les femmes ». Paul s'adresse à des églises qui étaient très marquées par le patriarcat. Et il insiste d'abord sur la réciprocité dans le couple, respect et amour, on l'a vu. C'est comme un nouveau code familial. Donc ces dispositions familiales qui sont expliquées pour les maisonnées dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Tous sont appelés à la soumission, et les hommes aussi, les uns aux autres et à Christ. Alors, on ne va pas tout aborder aujourd'hui, mais en ce qui concerne, pour y revenir, la soumission demandée à l'épouse, eh bien oui, c'est vrai que les maris ont souvent pris prétexte de cela pour imposer une domination, une autorité, voire de l'asservissement ou de la violence. Et il est vrai aussi que les femmes n'ont pas vraiment envie d'entendre ça aujourd'hui, moi y compris. Alors, il est nécessaire de lire le verset 22, c'est-à-dire pour les femmes, à la lumière du verset 21 qui semble conditionner le paragraphe. Il s'agit d'une soumission mutuelle, mais elle est demandée spécifiquement à la femme. Donc, se mettre volontairement au-dessous, accepter l'autorité, respecter, dans un esprit docile, ouvert, accepter un leadership, ce que dit le dictionnaire. Et le verbe utilisé ici en grec est, paraît-il, un verbe qui n'est pas très fort dans le sens de la soumission, il y aurait d'autres verbes. Et il est au participe présent, c'est-à-dire étant soumis, comme le disent d'ailleurs certaines traductions littérales. Ça suit d'ailleurs toutes les actions de l'esprit, chantant, psalmodiant, vous entretenant, rendant grâce par l'esprit et étant soumis les uns aux autres. Donc ça donne une connotation plus douce, peut-être. Il est dit aussi que ce mot en grec pourrait être plutôt comparé à la volonté de porter les fardeaux les uns des autres, d'être un appui. En tout cas, la parole de Dieu ne dit jamais que le mari doit soumettre sa femme, qu'il peut disposer d'elle et de son corps comme il l'entend, que la femme, il ne dit pas non plus que la femme doit obéir à son mari, et la parole de Dieu ne prétend jamais que le mari doit régenter la vie de sa femme. Mais la soumission est un choix librement décidé sous l'impulsion de l'esprit. Alors bien sûr, nous voulons évoquer le parallélisme important avec la Trinité. Parce qu'il y a aussi autorité et soumission au sein de la Trinité. Le Père est celui qui envoie, le Fils se soumet au Père, il s'abaisse, l'Esprit est là pour servir le Fils. Et la volonté de Jésus est de faire la volonté de son Père. Alors en pratique, qu'est-ce qui est demandé aux femmes? Amour, respect, soumission. Il y a beaucoup de fausses idées, des dangers. Ce n'est pas être opprimé et docile, ce n'est pas être inférieur, d'être rabaissé, ce n'est pas s'écraser, ne jamais contredire ou ne jamais donner son avis sur tous les sujets, ce n'est pas ne pas prendre de décision. Mais ça peut parfois être vécu comme ça, dans une espèce de docilité et qui parfois était d'apparence, tout le monde le savait bien dans le milieu chrétien, il y a un risque de vie dans l'ombre, de gâchis de ses propres dons. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ça a été le cas. Alors à l'autre extrême, l'autre risque, ce serait se rebeller, dire non, de toute façon, ça, c'est plus d'actualité, finalement, de manquer de respect. Et peut-être aussi, en pratique, de dévaloriser ou décrédibiliser son mari. Bien sûr, ce n'est pas non plus une soumission imposée par la violence. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être reconnaître l'ordre établi de Dieu. Ça va être voir son mari comme grand à ses yeux, craindre au sens biblique du terme, c'est-à-dire ne pas vouloir lui faire du mal, comme l'Église voit le Christ. C'est incroyable, non? Donc, reconnaître sa place d'autorité, pas dominateur, mais détenteur d'une responsabilité supplémentaire. Et aussi, l'avantage de se sentir protégé. Alors, quoi qu'il en soit, ça reste quelque part un mystère. Et j'aime bien cette conclusion de Cathy Keller dans le livre qu'ils ont écrit, Timothy et elle, sur le mariage. Si les hommes et les femmes sont égaux en dignité, pourquoi, entre guillemets, Dieu a-t-il décidé que ce soit l'homme qui soit le chef? Et pourquoi les femmes sont-elles appelées à la soumission? Donc, il n'y a pas de réponse, sauf peut-être une autre question. Pourquoi est-ce Jésus, le Fils, qui s'est soumis et a servi? Pourquoi a-t-il abandonné son autorité au Père? Nous n'en savons rien, mais nous savons que c'était le signe de sa grandeur. et non de sa faiblesse. Alors nous les femmes, nous sommes appelées à suivre Jésus sur ce point. C'est un grand honneur de pouvoir finalement imiter Jésus dans son abaissement. Et nous n'oublions pas non plus que exercer l'autorité de façon sage est un challenge aussi très difficile pour les époux.
Je souhaite évoquer brièvement la violence conjugale. Muriel Selon, une chrétienne évangélique, a fait un mémoire de recherche professionnelle en 2021-2022, étudiante dans une formation d'Université Paris 8, formation « Violence faite aux femmes ». Son enquête a concerné 180 femmes d'églises protestantes évangéliques. Donc c'était, les statistiques sont un peu biaisées, mais disons, cyniquement, dans l'église protestante évangélique, elle a fait une enquête. Ses résultats de l'enquête sont alarmants, je ne vais pas les exposer ici. Le travail de cette chercheuse est perfectible, parce qu'il y a plusieurs biais dans son enquête, mais bon. Mais devrait par contre inclure une plus grande diversité d'églises. Mais néanmoins, c'est un cri d'alarme dont je souhaite faire l'écho ici ce matin. Brièvement. Selon son enquête, les femmes fréquentant les églises protestantes évangéliques en France sont aussi victimes, voire plus, que la moyenne française. Les violences verbales, psychologiques, physiques, économiques, sexuelles. Alors, est-ce possible dans le monde évangélique? Eh bien oui, et on le sait. Parce qu'on idéalise peut-être le mariage. Parce que dans le monde évangélique, il y a peut-être une pression forte pour ne pas divorcer. Il y a une pression aussi très forte pour pardonner, pour couvrir, pour le mal. Et puis, il y a une mauvaise compréhension de la soumission de la femme dont on vient de parler. Pourtant, bien sûr, la violence conjugale n'est pas selon Dieu. On a vu que les textes de la Genèse valorisent ce qui est différent. Or, la violence conjugale, c'est justement vouloir faire taire l'autre. Que l'autre n'existe pas comme un sujet différent. Jésus rejette la violence gratuite. S'il a enseigné de tendre la joue, l'autre joue en certaines circonstances, il refuse lui-même d'être frappé injustement lors de son procès. En Jean 18. C'est pourquoi la Bible propose un modèle relationnel qui est appelé l'alliance, qui permet l'acceptation de la différence, pour la vivre dans l'égalité, en alter ego. Parce que l'alliance permet d'éviter qu'une des parties annexe l'autre. L'alliance évite que l'un domine sur l'autre. Parce que l'alliance suppose des droits égaux et le respect réciproque. Chacun restant lui-même en étant en relation avec l'autre. Mais ce vis-à-vis, ce front à front, comporte une dimension de résistance, je l'ai déjà dit, résistance qui parfois peut devenir destructrice. Alors il faut bien distinguer d'une part, le conflit positif, constructif, qui se résout par la négociation, et puis d'autre part, la violence conjugale, qui est une position asymétrique de domination. Alors, qu'est-ce que la vraie autorité? Il nous semble que l'Écriture montre que l'homme a un rôle d'autorité quant à la conduite de la famille, je pense aussi quant à la conduite de l'Église, mais dans une acception chrétienne de l'autorité. Une acception chrétienne de l'autorité, c'est-à-dire c'est quoi? C'est une charge caractérisée par l'amour, le service, la responsabilité, le soin. Jésus mentionne cela aux disciples quand il leur parle de l'autorité. Il leur dit en Matthieu, les chefs des nations dominent sur elles. Ils font sentir leur autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Celui qui veut devenir un leader ici dans ce lieu, il faut qu'il accepte de prendre la place de serviteur d'abord. Jésus d'ailleurs ne dit pas qu'il y a certains chefs qui tyrannisent moins que d'autres. Il ne relativise pas, il est très absolu. Il annonce, les chefs dominent et font sentir leur autorité. Peut-être que Jésus souligne ainsi que l'exercice de notre autorité sera souvent entaché par le péché et pourra blesser l'autre. L'autorité n'est pas pour pallier un manque de compétences, mais c'est pour orienter les compétences communes, au contraire. Ce n'est pas un droit systématique de regard sur chaque décision. Ce n'est pas donner des ordres, l'autorité. Ce n'est pas imposer son point de vue, l'autorité. Ce n'est rien à voir avec l'autoritarisme qui correspond à s'élever soi-même et en abaissant les autres. Alors, historiquement, il y a eu beaucoup de déviance et de violence sous prétexte d'autorité, j'ose le dire, dans les milieux chrétiens. J'en ai honte. Et j'ai honte de ce que l'homme fait à la femme depuis des millénaires. C'est honte, j'en ai honte. Mais l'autorité, c'est une charge synonyme de service, de responsabilité. Et l'autorité du mari, c'est une autorité de conseil et non de commandement. L'autorité est évidemment partagée. Elle est souvent d'ailleurs déléguée sur un grand nombre de domaines. Et par contre, elle peut renvoyer effectivement à la responsabilité de trancher en dernier ressort quand il faut prendre une décision, qu'il y a une échéance, et d'assumer les conséquences. Autorité veut dire capacité de faire grandir. L'autorité peut définir comme tirer vers le haut, tirer le meilleur de chacun. Et dans une entreprise, est-ce que le bon chef, ça ne serait pas celui qui fait que ses subordonnés soient à même d'utiliser au mieux leurs capacités, soient à même de donner le meilleur d'eux-mêmes. L'autorité, c'est élever l'autre en s'abaissant soi-même. Ce qui est demandé au mari aussi, puisque ça a évoqué ce qui était demandé aux femmes, maintenant au mari, conduire, nourrir, chérir, aimer son épouse comme le Christ a aimé l'Église. Il faudrait relire les versets 25 à 30 de Éphésiens 5. Mais peut-être que nous, les hommes qui sont dans cette salle, on pourrait se poser la question, dans ces textes d'Éphésiens 5, quelles sont les caractéristiques de Jésus pour l'Église dont je devrais imiter? Comment Christ dirige son Église? Jésus dirige l'Église comme étant un chef serviteur. Il l'a d'abord acquise en mourant pour elle. Il lui donne quelques lignes générales. On a quelques lignes générales de fonctionnement de l'Église. Mais il ne réglemente pas tous les détails de la vie de l'Église. Pas du tout. Il la laisse faire en l'aimant, quoi qu'elle fasse. Le mari valorise sa femme. L'encourage, lui fait confiance, la laisse décider, la protège. Jésus a donné sa vie pour elle. Cela correspond pour l'Église. Cela correspond à un décentrage de soi au profit de l'autre. Il l'a purifiée par la parole. Cela nécessite à nous les hommes d'être donc des hommes de la parole de Dieu pour pouvoir aussi imiter Jésus sur ce point. Jésus a fait le choix d'aimer l'Église. Il a fait le choix de la voir belle, sans rides et sans taches. Et je trouve qu'Élisabeth est très belle, mais que vous ne connaissez pas toute sa beauté aussi intérieure d'âme. Alors pour nous les hommes, évitons de prendre du temps pour relever ce que notre femme ne ferait pas bien. Jésus l'a vue digne de Dieu. Et nous sommes invités à la voir digne, belle aux yeux de Dieu. Une sœur en Christ, co-héritière. Aimer notre épouse comme nous-mêmes, ce n'est pas du narcissisme, mais c'est une réelle conscience de sa valeur, de notre valeur. Comme le psalmiste qui disait, je suis une créature merveilleuse, je le sais très bien. L'apôtre compare la relation de l'homme avec sa femme à la relation que l'homme a à l'égard de son propre corps. Il aime sa femme comme son propre corps. La barre est très haut dans Éphésiens 5 pour les hommes. Et ce texte d'Éphésiens 5, au lieu de faire peur aux femmes, devrait faire peur aux hommes.
Alors bien sûr, tout cet amour que nous avions évoqué, eh bien, ça se vit au quotidien avec beaucoup de partage, de communication, de communion. Et on voudrait dire un mot, bien sûr, de l'union intime sexuelle. La sexualité est un don de Dieu. Le plaisir est une invention de Dieu. Et ce sentiment voilà, ces émotions permet de renouveler l'intimité, de se sentir accepté, peut-être surtout pour les hommes, de se sentir comblé, peut-être surtout pour les femmes. C'est un réconfort pour, et ça la fortifie l'union et donne de l'harmonie. Et c'est comme une ivresse partagée. Et ce qui est incroyable, c'est que cela est vécu avec les encouragements de Dieu, en étant à l'écoute des besoins l'un de l'autre, comme on va le voir, c'est le plaisir de faire plaisir. Alors, un texte à propos des encouragements de Dieu, on a plusieurs textes, par exemple dans les Proverbes. Que ta source soit bénie, fais la joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et puis le Cantique des Cantiques célèbre la jouissance sexuelle avec des allusions très claires. Et je voulais en venir à 1 Corinthiens 7 qui parle aussi de la rencontre intime. Et Paul écrit que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais c'est la femme. Vous avez vu toutes ces propositions symétriques. Et enfin, l'encouragement, ne vous privez pas l'un de l'autre. Alors c'est un texte incroyable parce qu'effectivement il y a cette parfaite symétrie. Ça veut dire qu'aucun ne peut décider tout seul de la conduite à adopter. Aucun des conjoints ne peut instrumentaliser l'autre. Chacun doit tenir compte de l'autre. C'est un domaine où finalement le rôle de chef du mari disparaît. Il n'y a plus aucune hiérarchie. Personne n'impose à l'autre. Le Nouveau Testament nous enseigne donc que les deux ont les mêmes droits de contrôle sur leur relation intime, avec comme une autorité conjointe et partagée. Alors c'est vrai que c'est une aventure pour toute la vie et qu'il y aura des grands moments, il y aura des moments, c'est un apprentissage aussi, hein, c'est un voyage de découverte et l'important c'est de communiquer à ce sujet, de s'en parler, d'accepter les imperfections, pas de performance, pas de culpabilité. Et s'il y a des difficultés, eh ben, être compréhensif avec l'autre et de l'humour, ça sauve bien des situations, hein. Et parfois demander de l'aide. Finalement, cette union, quand elle s'exprime dans l'amour, elle est à la fois, elle exprime et en même temps, elle bâtit, elle crée le sentiment de ne former qu'un. Ça nourrit notre amour et notre complicité. C'est comme une célébration de l'alliance et un nouvel engagement, un renouvellement de notre engagement. Que nous pouvons vivre aussi avec action de grâce. Et puis, bien sûr, n'oublions pas que notre... Donc c'est un cercle vertueux. N'oublions pas aussi que c'est le lieu où peut-être il y aura conception. Et cette intimité porteuse de vie qui nous associe d'une façon extraordinaire à l'acte créateur de Dieu lorsque nous pouvons créer ensemble un nouvel être humain. Alors, bien sûr, dans tout cet amour conjugal, c'est pas les bisounours tout le temps. C'est, il y a des hauts et des bas. L'important, c'est de communiquer. Et qu'est-ce que c'est qui va enrichir encore ce partage? Alors, on pourrait beaucoup détailler, mais là, il faut que je me dépêche. Donc, on veut encourager surtout au partage. Par exemple, pour la vie spirituelle, c'est pas le tout d'avoir une vie avec Dieu, mais c'est important de la partager. Bien sûr, c'est bien de lire, prier ensemble, etc. Partager la vie d'église et puis décider ensemble des services qu'on va adopter dans des ministères, dans l'église ou dans la société civile. Et tout ça, c'est des projets de couple. Mais sans se mettre de pression, sans se mettre de loi bien sûr. Il y aura beaucoup de tâches quotidiennes, bien sûr, dans la vie de couple. Hein. Bien sûr, la cuisine, le ménage, le linge, la vaisselle, voilà. Bon, tout ça, il va falloir se les répartir. Et puis, il y aura prendre soin, tout ce qu'on fait pour les enfants, tout ce qu'on fait pour des personnes, voilà, dont on prend soin. Et pour tout ça, il y aura beaucoup de décisions. Ah tiens, de nouveau le code civil, secours et assistance, hein, en se rappelant, hein, lol, que mon conjoint n'est pas un incapable, n'est pas mon parent, n'est pas mon enfant, et n'est pas non plus une femme ou un homme idéal. Il y aura beaucoup de projets à élaborer, les activités, les loisirs, les vacances, les amitiés personnelles, les amitiés en couple, les familles, les belles familles qui sont belles, je vous le rappelle, et puis l'éducation des enfants, et puis la gestion des finances, des achats, des carrières. Voilà, tout ça, ça va nécessiter des partages, avec toujours mon petit cible. Et voilà, en parler, élaborer ensemble, et puis communiquer en profondeur aussi, pas seulement qui c'est qui rapporte le pain aujourd'hui, mais voilà, ce que je pense pour ce tel ou tel sujet, trouver des moments pour en parler, des soucis comme des joies. Et puis, eh bien, évidemment, ce sera l'occasion de beaucoup de conflits. Et ça, les premières années de mariage sont vraiment le théâtre de l'apprentissage de la gestion des conflits. Voilà, il y a quelque chose qui heurte et on peut aller dans la bonne direction ou on peut aller dans la mauvaise. Comment résoudre, comment éviter la mauvaise direction? Eh bien, en parlant. Et il y aura beaucoup, voilà, à travailler pour arriver à trouver comment résoudre chaque différent, chaque différence. Et quand on en arrive à se blesser, à se faire du mal, parce qu'on est tellement sûr d'avoir raison, pas vous? Et puis, les critiques, les reproches viennent très vite et on se blesse. Et donc, à ce moment-là, ce sera un chemin pour demander pardon, se pardonner, se réconcilier et savoir aussi bâtir notre attachement. Il est dit, mettez-vous en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, un principe important à essayer de mettre en pratique dans la vie de couple. Et quand Jésus dit de pardonner 70 fois 7 fois, je pense qu'il avait en vue le couple.
Finalement, la résolution de nos différends va nous ramener à notre engagement, un engagement de fidélité. Bien sûr, il y a le défi de la fidélité, qu'un engagement soit ferme, mutuellement et volontairement consenti. La fidélité doit être entretenue. Je passe un peu. Merci.
Voilà. Donc on arrive au bout, rassurez-vous. Il y aura donc des joies, des peines, et tout cela formera une sorte de bonheur avec le rôle important des pardons et des réconciliations et de la communication mutuelle. Prendre soin, se dévouer l'un pour l'autre, être attentionné avec ces textes qui nous y encouragent. Femme, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Et ce texte de Proverbe 31 qui décrit une femme, une superwoman, hein, certainement vous l'avez déjà lu, tout ce qu'elle fait, mais il y a un texte clé pour moi, tous les jours, elle lui fait du bien, en parlant de son époux. Et pour les maris, Pierre, donc l'apôtre Pierre qui était marié et qui savait ce que c'était que de vivre avec une femme, eh bien il dit: Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate.
Le mot de la fin: l'amour pardonne tout, espère tout, endure tout. Parce que parfois c'est un chemin ardu, mais c'est aussi un cercle vertueux qui est aussi un chemin de sanctification. Et surtout, dit Paul, et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dieu nous invite donc dans ce texte à nous exciter à l'amour. C'est assez excitant, non? Ce sera notre mot de la fin. Merci pour votre écoute.